Bonsoir à tous, vous êtes sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, radio sans Dieu ni maître ni publicité, et c'est Jeudi Noir qui reprend ce soir avec José, Michel et moi-même. Vous venez d'entendre un morceau de Underground Resistance, The Beauty of Decay, 92, Detroit. Voilà, et le livre que nous vous présentons ce soir, vous allez du coup comprendre la pertinence, le acéré au laser de ce choix de José ce soir. Michel nous parle d'un livre qui s'appelle « La domination et les arts de la résistance », sous-titré « Fragments du discours subalterne » de James C. Scott aux éditions Amsterdam. Alors, c'est un James C. Scott, on a déjà parlé dans cette émission à plusieurs reprises, anthropologue, anarchiste, revendiqué. Le livre a été édité chez Amsterdam en 2019. Hein, je rappelle le titre, Domination et les arts de la résistance, fragment du discours subalterne. Il me semble qu'il est sorti autour de 2009 en langue anglaise. C'est une traduction... Les traductions un petit peu avec un petit décalage en langue française. Tu vas peut-être nous en parler un peu plus, Michel, du coup de l'intérêt. On a déjà fait deux émissions sur un petit manuel de l'anarchisme, si je me souviens bien. Petit éloge de l'anarchisme. Et un autre texte, c'est sur le blé et l'État. Homo domesticus, exactement. Une espèce de grande fresque anthropologique sur l'apparition des États dans les civilisations céréalières, si je me souviens bien. De quoi est-il question dans celui-là, la domination et les arts de la résistance?
Alors, quand on vous a présenté Homo domesticus, en fait, avec Scott, on présentait aussi l'apparition de l'État. Et Scott est résolument anti-hegelien, en un sens. C'est-à-dire que pour lui, l'État n'est pas la réalisation de la raison, de la rationalité. Ce n'est pas une espèce de progrès inéluctable et logique. C'est l'apparition d'un pouvoir qui va s'imposer contre, finalement... aussi d'autres manières d'envisager l'existence, la vie, et ça peut avoir de grands pans d'irrationalité, c'est-à-dire de calculs qui sont à court terme, de calculs qui sont mauvais, et d'une certaine manière, moi j'y vois, malgré un rapport superficiel avec les idées de Foucault, dans le fond des analyses, je pense que c'est un peu de l'antifoucaldisme, c'est-à-dire que chez Scott, la rationalité... Et dans un sens, du côté du peuple et pas de l'État. Du côté des pratiques et pas du côté des modes de gestion. Et donc, dans La domination et les arts de la résistance, aux éditions Amsterdam, il va partir finalement des discours subalternes. Les discours qui sont tenus par les gens qui, justement, n'ont pas le pouvoir. Et là encore, ce qui me semble intéressant par rapport à tout un tas d'approches... de philosophie politique, disons à la française, c'est que c'est une approche qui part d'un point de vue strictement empirique. Il le dit à un moment dans un entretien à la fin de l'ouvrage, et c'est, je trouve, une assez belle citation. Il dit « Je ne peux par ailleurs comprendre les concepts abstraits que si je peux les observer marchant sur la terre ferme dans un contexte empirique donné. » Et donc, quand il va étudier, par exemple, des paysans en Malaisie, il va pas lire un texte du XVIIIe siècle, la Bibliothèque nationale française. Il va aller voir des paysans malais et il va écouter ce qu'ils racontent. Et ça, c'est le point de départ de l'ouvrage, parce qu'il va se rendre compte d'une chose, c'est que plus les paysans auxquels il parle sont dépendants et pauvres, on va voir pourquoi les deux critères sont importants, plus leur discours est potentiellement contradictoire. Plus ils vont dire quelque chose, dans un contexte donné, on précisera après, plus il y a de chances qu'ils se contredisent dans un autre contexte. Et au début, c'est ça qu'il va chercher à expliquer, en quelque sorte.
Ils ont l'air incohérents.
Ouais. Et il se dit, mais c'est quoi? Et en plus, il observe aussi autre chose, c'est que la pauvreté n'est pas un critère suffisant. C'est-à-dire qu'il faut aussi dépendre de quelqu'un pour que cette incohérence se manifeste. Et alors, je ne vais pas maintenir le suspense plus longtemps, c'est facile. Hein. En fait, ces gens pauvres et dominés se contredisent si on compare le discours qu'ils tiennent devant les gens qui sont riches et dont ils dépendent, d'accord, et le discours qu'ils vont tenir en privé. Et donc, à partir de là, il va faire une espèce, il va se dire, ah mais, alors comme un anthropologue, c'est Graeber qui a remarqué ça dans un de ses bouquins, il disait, très très souvent on découvre quelque chose qui nous semble complètement étranger en anthropologie, et puis, en y réfléchissant, on s'aperçoit que ça explique aussi nos comportements. Genre, on va se moquer des soi-disant sauvages qui ont une mascotte, et puis on s'aperçoit que le régiment de soldats américains sur le front en 16-17, ils ont aussi une mascotte. Et que finalement, le totem de la première tribu nous permet d'expliquer la mascotte du régiment. Et là, justement, ce que va se dire Scott, c'est que cette espèce de contradiction dans le discours, chez les gens qui sont à la fois pauvres et dépendants, contradiction qui apparaît quand on les observe face à les gens qui, aux gens qui les dominent et quand ils sont seuls entre eux, peut aussi être observée chez nous, à un degré moindre. C'est-à-dire que si on est face à quelqu'un qui a du pouvoir sur nous, on ne dira jamais la même chose que si on parle loin de lui. Et donc, à partir de là, en fait, c'est ce point-là de départ qui est assez intéressant, c'est qu'il va, il va élaborer toute une espèce de théorie politique.
Du double discours, du double jeu.
C'est ça, double discours, du double jeu.
La duplicité, au fond.
Duplicité. Mais alors, c'est, ça a pas mal de choses, c'est-à-dire qu'il va dire... lui, alors, il ne va pas parler de duplicité, il va parler de discours caché et de discours public, de texte public et de texte caché. Donc... là-dessus, voilà. Alors c'est pas qu'une lecture marxiste, parce que c'est pas qu'une question de classe, puisque les pauvres qui ne sont pas dépendants parlent pas de cette façon-là. Et en même temps, comment dire, y a un petit côté quand même, un tout petit côté marxiste, je pense, quand il écrit l'organisation du livre est fondée sur l'hypothèse selon laquelle ce sont les situations les plus drastiques de dépendance et de domination qui fournissent le meilleur éclairage sur la question. Et quelles questions ? Sur des questions qui traitent du pouvoir, de l'hégémonie, de la résistance et de la subordination. Alors, Scott, c'est un auteur un peu brouillon. À mon sens, juste après, là, on pourrait se dire, c'est un côté marxiste. Le meilleur point de vue, finalement, sur la société, c'est le point de vue, en quelque sorte, le plus bas. C'est le point de vue des prolétaires, mettons, ceux qui sont victimes de toutes les dominations et toutes les oppressions. Bon, juste après, il fait un malheureux, comment dire, une malheureuse concession peut-être au postmodernisme, en disant que son approche partage néanmoins avec le postmodernisme la conviction qu'il n'y a pas de position sociale ou analytique permettant de déterminer la véracité d'un discours ou d'un texte. Bon, ça me semble un peu étrange. Et il dit, je demeure convaincu que le travail dans un contexte clos fournit la substantifique moelle de la théorie, je pense néanmoins qu'il y a des choses intéressantes à dire à la croisée des cultures et des périodes historiques en contemporain. Bon, ici, moi, il me semble qu'il établit justement un bon point de vue, et je ne vois pas pourquoi, un peu plus tard, il nous dit qu'il n'y a pas de point de vue qui soit plus privilégié qu'un autre.
Si je peux risquer une hypothèse, c'est qu'il me semble être un... Enfin, je m'appuie sur ce qu'on sait de ces autres textes. Hein, moi, j'ai pas lu ce texte-là, mais sur les autres, il se pose pas en théoricien. C'est juste ce qui rejette, c'est l'idée qu'il puisse y avoir un point de vue de la théorie qui dirait en fait ce qu'est la vérité du comportement et des modes de pensée des gens sans que les gens s'en rendent compte d'une certaine manière. C'est le point de vue du socialiste scientifique, et du sociologue ou du théoricien marxiste qui se pose en surplomb et qui va expliquer pourquoi le dominé a un discours aliéné et une double conscience, et qu'en fait il n'est pas conscient de ses intérêts et qu'il tient un discours qui est
inverse. Et donc, c'est pas du tout ce qu'il dit.
Et ben exactement. C'est-à-dire qu'évidemment, il est aux antipodes de ça, et qu'en fait, lui, ce qu'il essaie de penser, c'est justement ce double jeu et comme une stratégie, et non pas comme une espèce de fausse conscience ou de conscience qui serait remplacée par l'idéologie dominante ou par l'hégémonie, avec des catégories justement à la Gramsci ou des gens comme ça.
Qui critiquent partie.
Exactement. Donc en fait, peut-être que effectivement l'idée est là, c'est-à-dire que ce qui va reprendre, ce qui va emprunter au postmoderne, c'est l'idée qu'en fait, faut comprendre ce genre de position-là comme quelque chose qui est à penser de manière stratégique, et que tu ne peux pas comme ça, adopter un point de vue théoricien qui te permettrait, en t'appuyant sur la bonne théorie marxiste, etc., qui te permettrait de dire pourquoi les gens disent le contraire de ce qu'ils devraient dire. Voilà, sans s'en rendre compte.
C'est ça.
Voilà. Et donc, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là.
Hein, oui, c'est vrai, je n'avais pas pensé à l'histoire de double conscience et d'aliénation. Ouais. Et c'est vrai que, de ce point de vue-là, ça, c'est directement anti-marxiste. Et... Ouais, c'est clair, ils ne sont pas aliénés. Non. C'est une stratégie.
C'est ça, on est dans une approche stratégique. Et ça, tu as effectivement... c'est un des points forts, mais même presque jusque... usé jusqu'à la corde chez des gens comme Foucault, c'est qu'effectivement, ils se pensent, non pas comme des théoriciens, qui te donneraient une théorie vraie, puisque la vérité, etc.
Ça n'existe pas.
Il n'y a pas de vérité objective, et qu'en fait, tu ne peux penser, effectivement, ou décrire une situation qu'en termes stratégiques, c'est toujours comme ça que tu peux... Ouais. Donc peut-être que c'est ça...
Non, parce qu'il y a plein d'autres points sur lesquels ils ne seraient pas d'accord avec Foucault, je pense.
J'imagine, mais en tout cas, sur ce positionnement-là, comprendre effectivement ce genre de situation comme une stratégie, et non pas comme une contradiction, comme une aliénation, justement, comme une espèce de... Bon, enfin, ce serait une hypothèse, quoi. Ouais.
Et à partir de là, lui, ce qu'il va faire, donc il part de cette espèce d'expérience qu'il a avec des paysans malais, et il va l'étendre à d'autres choses, en disant que il présuppose justement que les formes de domination, que des formes de domination structurellement similaires, partageront les unes avec les autres un certain air de famille. C'est-à-dire que là, la situation que je viens de décrire avec ce paysan malais qui va tenir un discours contradictoire se retrouve en réalité dans tout un tas d'autres circonstances.
Concrètement, ça veut dire quoi ? Moi, j'ai pas... sur les exemples, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, par exemple, publiquement ou face au maître, le paysan malais va tenir un discours de lèche-cul légitimiste.
C'est ça.
Et que, par contre, en privé, il va parler comme si c'était
un révolutionnaire,
Révolutionnaire accompli.
C'est ça.
C'est ça. Et c'est ce type de voilà. De
c'est ce type de contradiction apparente qu'il va montrer. Et après, ce qu'il va dire, c'est que justement, il y a un premier texte, c'est le texte public. Et qui est une espèce de jeu dans un théâtre social. Ouais. Puis un deuxième texte, le texte caché, qui lui...
Vaut parmi les subalternes.
Et oui, vaut parmi les subalternes, et y compris parmi les subalternes. Et donc là-dessus, ensuite, il va dire, ces similarités sont assez flagrantes dans le cas de l'esclavage, de la féodalité, des systèmes de caste. Chacun de ces exemples constitue un arrangement institutionnel destiné à s'approprier le travail, les biens et les services d'une population subordonnée. Et après, ce qui est aussi intéressant, je trouve, c'est que c'est quelqu'un... alors, il décrit un petit peu les groupes subordonnés. Hein, de manière formelle, les groupes subordonnés dans ces modèles de domination n'ont ni droit civique, ni droit politique, et leur statut est fixé à la naissance. La mobilité sociale est interdite en principe, sinon en pratique.
Donc là, c'est une société de caste.
C'est plus ou moins des sociétés de caste, mais ça vaut aussi pour l'esclavage, ça vaut aussi pour la féodalité, qui sont des sociétés de caste. Hein. Ouais. Et ensuite, par exemple, il va dire, malgré... un haut degré d'institutionnalisation, les relations entre maître et esclave, seigneur et serf, ou hindou de classe supérieure et intouchable, demeurent aussi des formes de pouvoir personnel avec une grande latitude laissée aux décisions arbitraires par le capricieux du supérieur. C'est-à-dire qu'il ne reste pas sur un niveau purement structurel, ni purement livresque, ni au simple niveau du discours. C'est-à-dire qu'il va dire, par exemple, ces relations sont toutes pénétrées d'un élément de terreur. Terreur qui peut prendre la forme de punitions arbitraires, de violences à caractère sexuel, d'insultes ou d'humiliations publiques. Un esclave aura peut-être la chance d'échapper à ses mauvais traitements, mais de fait, de savoir qu'il pourrait lui arriver fait partie intégrante de la relation entretenue avec son maître. Mais de ce point de vue-là, je trouve qu'il a un point de vue qui, quand même, comment dire ?
Il y a du pouvoir là où il y a de la menace.
C'est ça aussi. C'est pas le pouvoir n'est pas une espèce de chose abstraite, une espèce de concept philosophique séparé. Ça inclut aussi, le corps, la menace et la terreur.
Menace physique ?
Oui, menace physique. Ouais. Tu sais que tu peux te faire torturer. Et donc là-dessus, il va.
Ça, c'est la base sur laquelle il travaille, c'est les terrains sur lesquels il s'appuie.
C'est
ça. Donc ça veut dire que c'est pas quelqu'un qui a priori est très sensible aux analyses pour le coup justement à la Foucault, Deleuze sur le contrôle non-violent, la surveillance par la non-violence, la domestication par la non-violence, ce genre de choses.
C'est-à-dire qu'il serait plus proche de Graeber, avec l'idée qu'il y a toujours quelqu'un qui va te taper.
Il y a pas
si
de soft. Il y a pas de soft power.
Non, il y a pas de soft power. À un moment ou un autre, il y a quelqu'un qui va te cogner si tu désobéis. Trop. Après, je suis pas sûr que ce genre de choses soit totalement absente de chez Foucault, par exemple.
Non, mais c'est ce que je veux dire, c'est la fameuse préface de surveiller et punir, quoi. L'espèce de manière dont Foucault te dit que le pouvoir aujourd'hui, il est forcément soft parce que soft, c'est encore plus efficace, encore plus aliénant que.
Et encore plus économique.
Que quand tu as la menace physique, du supplice, etc., etc.
Et donc, il y a aussi le côté assez anthropologique, c'est-à-dire que, par exemple, il va prendre en compte beaucoup la dimension qui est liée, dans la violence des relations de pouvoir, à la privation d'autonomie et de dignité. Et il y aura toute une analyse morale, en fait, aussi, de ça.
Ça, c'est l'analyse qui fait de la dépendance.
Aussi, c'est-à-dire le fait qu'il dit, de telles formes d'oppression privent les dominés du luxe ordinaire, de la réciprocité négative... qui voudrait l'échange d'une gifle pour une gifle, d'une insulte pour une insulte.
T'as pas de symétrie, t'as pas là où il y a pouvoir, c'est que tu peux pas effectivement répondre de la même manière.
Ouais, il y a pas d'égalité, il y a pas de symétrie là-dedans. Et donc il va en arriver à ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure. Il dit et donc il y a un problème ici. Et à mon avis, il a grâce à l'anthropologie. Qui, pour tout un tas de raisons, à mon avis, est absente, enfin, c'est compliqué, quoi, mais de pas mal d'analyses françaises, enfin, pas toutes, parce que l'anthropologie a une importance en France, mais il va dire, comment étudier les relations de pouvoir lorsque les dominés sont souvent obligés d'adopter une posture stratégique en présence des puissants, et lorsque ces derniers ont intérêt à magnifier délibérément leur stature et leur position de maître. En gros, où sont les textes, en quelque sorte ? Il y a des textes publics, des textes cachés, mais comment s'il y a accès ? Et là, il y a, comment dire, en partie l'étude, disons l'étude empirique, mais lui, il va dire, voilà, il va prendre autre chose, et il va prendre aussi, et ça c'est intéressant, il va aller voir du côté de l'anthropologie, du côté de la philosophie politique, et du côté de la littérature. Quand il trouve qu'il y a une bonne description des relations de pouvoir dans la littérature, il va y aller. Et là, peut-être qu'après, on y reviendra un peu plus tard, il va prendre deux œuvres, il va prendre George Eliot et Orwell.
Ok.
Eliot pour décrire le point de vue des esclaves qui sont dominés, et Orwell, il prend le texte de, j'y reviendrai parce que c'est un texte vachement bien en même temps, de Comment j'ai tué un éléphant, où d'après lui, Orwell montre ce que c'est que, en quelque sorte, d'agir comme un dominant, et quelles sont les contraintes qui s'imposent aux dominants face à la troupe des dominés. Il va montrer aussi la symétrie, c'est-à-dire les risques qui sont courus de part et d'autre. Qu'est-ce que risque Orwell quand il doit tuer l'éléphant ? Qu'est-ce que risque l'esclave s'il répond à son maître ?
Là, c'est la règle du noblesse oblige.
C'est un petit peu ça. Et là-dessus, il va dire, voilà, tout groupe dominé produit de par sa condition un texte caché aux yeux des dominants, qui représente une critique du pouvoir. Les dominants, pour leur part, élaborent également un texte caché, comprenant les pratiques et les dessous de leur pouvoir qui ne peuvent être révélés publiquement. La comparaison du texte caché des faibles et des puissants, et de ces deux textes cachés avec le texte public des relations de pouvoir, permettra de renouveler les approches de la résistance à la domination.
Ok, on va peut-être faire une première pause musicale, et puis on reviendra après sur les points que tu viens d'évoquer à l'instant, parce que ça paraît important et intéressant.
Música popular, primeiro a trazer essa consciência, a falar, a colocar as palavras das línguas africanas, a fazer os refrões das músicas, a usar os pequenos modos melódicos africanos, tribais na música, a buscar no violão, no instrumento, na guitarra, uma rítmica que contemplasse nitidamente a rítmica africana.
Ça fait années.
Ça fait années 80.
Ça fait années 90. Bonsoir à tous. Radio Liberté à 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu ni maître ni publicité. C'est Jeudi Noir qui reprend pour sa deuxième séquence ce soir. Avec un livre de James C. Scott qui s'appelle La domination et les arts de la résistance, édité chez Amsterdam en 2019. Vous venez d'entendre DJ Preservation, un morceau qui s'appelle Esquive de 2022. C'est un morceau récent, mais d'un DJ qui n'est pas récent. Voilà. Pourquoi Esquive ? Parce que ce soir, Michel, tu nous parles dans ce livre de James C. Scott des stratégies développées par les subalternes, c'est-à-dire ceux qui subissent soit la pauvreté, enfin plutôt qui subissent et la pauvreté et la dépendance, et la manière dont James C. Scott, anthropologue anarchiste, décrit et essaye de comprendre toutes les stratégies subalternes justement qui viennent qui sont développées, qui sont pensées, qui sont pratiquées par les subalternes, loin de ce que les visions héroïques de la révolte, de la révolution cherchent à voir en fait hein, dans ces situations là, ces pratiques, ces discours et ces pratiques subalternes, elles sont effectivement ce sont des pratiques de dominer, ce sont des discours de dominer, et elles s'appuient beaucoup plus sur la ruse et le camouflage que sur l'affrontement direct et le défi propre aux dominants, en réalité. D'où l'esquive, voilà. Me disais-tu.
Je peux rebondir directement, par une citation du bouquin de Scott, où il écrit « Je voudrais proposer une première généralisation un peu grossière, sur laquelle il me faudra revenir par la suite. Plus la disparité est grande entre le pouvoir du dominant et celui du subordonné, et plus ce pouvoir est exercé de manière arbitraire, plus le texte public joué par le subordonné aura un caractère stéréotypé et ritualisé. En d'autres termes, plus le pouvoir est menaçant, plus le masque se fait épais. » Et ça suit une citation d'un texte écrit par, je crois, quelqu'un qui avait été esclave ou dont le père avait été esclave et qui était un Afro-Américain. Et il écrit « Comme je connaissais le pouvoir des Blancs et leur hostilité envers les personnes de couleur, j'évitais toujours dans mon comportement de leur paraître désagréable. D'abord, je dissimulais le peu de biens ou d'argent que j'avais en ma possession et j'endossais autant que possible l'apparence d'un esclave. » Donc il n'était plus esclave. « Ensuite, je m'efforçais toujours de passer pour moins intelligent que je ne l'étais en réalité. » Tous les Noirs du Sud, esclaves ou affranchis, savent qu'il leur faut respecter ces quelques règles pour leur tranquillité et leur sécurité.
Ouais, c'est effectivement assez parlant. Tu disais alors est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur les différents terrains en fait que choisis d'étudier, différents exemples sur lesquels effectivement travaille James C. Scott. Tu as dit c'est quelqu'un qui revendique son goût pour les analyses empiriques, pour les analyses de terrain,
mais pas que
évidemment, parce qu'il théorise aussi et il essaie effectivement
et il prend aussi des exemples de la littérature
tu l'as dit effectivement, du point de vue anthropologique. Alors tu as parlé effectivement du paysan malais, des études, ça c'est effectivement un terrain qu'il a pas mal pratiqué. Donc il y a aussi des enquêtes et des analyses qui sont tirées de l'histoire de l'esclavage, donc chez les Afro-Américains, notamment, tu dis.
Oui, chez les Afro-Américains.
Qu'est-ce qu'on a ? Il y a d'autres situations.
Ensuite, moi j'étais parti sur George Eliot, qui décrit comment justement quelqu'un qui va se révolter par rapport à quelqu'un qui la domine. Il y a le côté aussi, il a changé pas mal sur la colonisation.
Donc la colonisation, sur l'esclavage, le cas d'Orwell effectivement.
Sur le c'est des Indes, c'est ça. Ouais. La féodalité, le système des castes indiens.
Ouais, donc ok.
C'est à peu près ces terrains. Et
la féodalité, c'est sur une approche plus historienne, si tu veux. C'est la féodalité européenne ou c'est...
Plutôt la féodalité européenne.
Ouais, d'accord.
Mais, puisqu'il parle, il parle des monarques, il parle de tout un tas de choses qui sont... c'est assez énorme en termes de...
Il fait partie de ces anthropologues, en fait, qui font aussi... un peu feu de tout bois, mais qui font vraiment feu de tout bois, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois, qui n'hésitent pas à aller chercher des terrains du côté de la fiction, du côté de la biographie, parce que dans le cas d'Orwell, c'est pas... l'épisode de l'éléphant, c'est tiré effectivement d'un récit autobiographique,
lorsqu'il est policier en Inde, est aussi autobiographique.
Donc ça fait partie des slave narratives, des récits d'esclaves, des témoignages d'esclaves. Donc ça, mais ce sont des textes, des sources écrites pour le coup.
Oui.
Ouais. Et donc il y a des sources historiques beaucoup plus anciennes, donc sur la féodalité, j'imagine, du coup, il s'appuie là aussi sur des
historiens européens qui font l'histoire de l'ancien régime en France. Il cite énormément de textes, c'est très foisonnant. Après, moi, ce qui me semble, au début du bouquin, il va surtout justement en quelque sorte poser des bases un peu théoriques. C'est pour ça qu'on a commencé de façon peut-être un peu ardue sur du Marx. Et sa base, ça va justement cet art de la dissimulation dont tu parlais, l'art de l'esquive, parce que lui, son idée, c'est que cette idée-là, que le faible dissimule face au fort, c'est pas du tout une idée originale. Simplement, c'est une idée qui, si tu la suis jusqu'au bout, peut t'apprendre beaucoup de choses. Et ça aussi, j'aime bien ce côté. Ah, ça, c'est pas forcément très original, mais le discours, en quelque sorte, du dominé, il va falloir d'abord l'envisager comme un discours, comme une espèce de performance théâtrale. Donc c'est aussi pour ça qu'il va avoir appel à tout ce qui est performance littéraire. Et donc, parce que, d'une certaine manière, il n'y a pas nécessairement besoin d'aller jusqu'à l'esclavage pour trouver une trace de cette stratégie. Là, par exemple, un petit passage qui est avant, il va dire « Si l'expression « dire la vérité au pouvoir », ça c'est peut-être une allusion à Foucault et à la parésia, le philosophe qui dit la vérité au pouvoir. Si l'expression « dire la vérité au pouvoir » sonne toujours de manière quelque peu utopique, y compris dans les démocraties modernes, c'est qu'elle est bien rarement pratiquée. Que le faible recours à la dissimulation face au pouvoir n'a d'ailleurs rien de bien surprenant. La pratique est universelle. Tellement universelle, en fait, qu'on la retrouve dans des situations où le pouvoir en question est exercé bien en deçà de l'acception usuelle du mot, de sorte qu'on le reconnaît à peine. Ainsi, la plupart des rapports sociaux normaux exigent de nous un échange de politesse et de sourires avec les autres, sans pour autant que l'estime que nous concevons à leur égard soit à la hauteur de ces marques de courtoisie. On pourrait dire que le pouvoir des normes sociales telles que l'étiquette et la bienséance nous forcent en quelque sorte à sacrifier un certain degré de franchise afin d'entretenir des relations sereines avec autrui. Cette forme de prudence peut avoir également une dimension stratégique. Il se pourrait bien que la personne à laquelle nous communiquons cette image faussée soit en position de nous nuire ou au contraire de nous aider. Donc ici, il pense, je crois que, avec de bonnes raisons, donner aussi une clé de compréhension de nombreux rapports sociaux, ce qui fait qu'on peut aussi sortir des exemples qu'on citait de féodalité, de système de caste, d'esclavage.
En fait, je veux faire une théorie anthropologique du pouvoir.
C'est ça.
Et de la domination.
Oui.
Quel que soit. Donc il prend les cas extrêmes pour avoir des idéotypes un peu précis et
c'est
essayer
ça.
De clarifier les choses. Mais d'après lui, c'est quelque chose qui est structurant dans tous les rapports sociaux.
C'est ça.
Quand je dis là où il y a pouvoir, là où il y a domination.
C'est ça. Quand je dis merci, monsieur le directeur, d'une certaine manière, évidemment, je ne suis pas un esclave, mais peut-être que je n'ai pas envie de lui dire merci, monsieur le directeur. Peut-être que j'ai juste envie de dire salut.
Ouais.
Bon. Et dans ce tout petit truc, il y a déjà l'expression
voir, casse-toi.
D'un texte, voire casse-toi, voire d'un texte public. Un texte public qui va être joué en quelque sorte face au dominant qui pourrait te nuire. Et donc, évidemment, t'es pas du tout, ta conscience n'est pas du tout aliénée. Et donc là-dessus, et après, bon, évidemment, là-dessus, il y a un truc. Alors on me dit le dominé n'est pas stupide, le dominant non plus. Ça va être un truc que c'est un jeu de dupes.
Alors, est-ce que tu peux en dire un peu plus de ça? Parce que
ouais.
C'est des expressions qu'il utilise, ça, c'est les concepts que lui mobilise. Mmh. L'idée de texte caché, de texte public. On pourrait parler de discours, hein,
oui.
Discours caché, discours public,
oui.
Discours officiel, discours. Voilà. Tu l'as dit, il y a un discours, un texte public. Le texte public des dominants, ben en fait, c'est la manière dont ils mettent en avant la légitimité de leur position.
C'est ça.
Pourquoi ils sont là? Ben parce que Dieu l'a voulu, parce qu'ils sont au service de la République, parce qu'ils sont plus compétents, parce qu'ils sont plus vieux, parce qu'ils sont blancs, parce que bref. Donc après, tous les discours. Donc ça, c'est le discours de légitimation que les dominants tiennent sur leur position. Ça, c'est leur discours public. Il y a aussi un discours caché des dominants. C'est ce qui se raconte entre eux. Pour expliquer comment être efficace avec les subordonnés.
C'est ça.
Hein, donc
parce que à un moment, il mentionne,
ouais.
Il dit voilà, les dominants non plus sont pas dupes.
Non.
Parce qu'il dit voilà,
ils savent qu'ils sont
un texte,
qu'ils sont pas là parce qu'ils sont au service de la République, parce qu'ils sont des élus de Dieu, ou parce qu'ils sont forcément plus compétents. Ils savent bien qu'ils le sont pas tant que
c'est ça,
en fait.
C'est des mensonges.
Voilà. Et donc entre eux. Ils ne peuvent pas effectivement se jouer la comédie.
Mais alors là, le point de vue des dominants à l'égard des stratégies de dissimulation des dominés, c'est il dit, si pour survivre, les membres des groupes subordonnés doivent ainsi savoir gérer d'une manière particulière les impressions qu'ils donnent d'eux-mêmes dans le cadre de situations de pouvoir, la duplicité de leur comportement échappe néanmoins rarement aux dominants les plus observateurs. Alors, notant la manière dont ces esclaves devenaient inhabituellement silencieux dès que les conversations entre blancs abordaient par exemple les dernières nouvelles du front lors de la guerre de sécession, Mary Chestnut se rendait bien compte que ses silences cachaient quelque chose. Et là, il la cite. C'est un journal, semble-t-il. Les voilà qui vaquent sous leur masque noir sans montrer une seule once d'émotion, alors que sous tous les autres sujets, ceux de leur race sont toujours tellement excités. alors qu'il est, ce Dick, est d'un silence si insondable qu'il pourrait faire un sphinx égyptien tout à fait respectable.
Ça, c'est qui, ça, qui parle?
Ça, c'est une esclavagiste, je pense. Si j'ai bien compris, parce que la note, ça renvoie à... oui, c'est ça. Un journal from Dixie. Dixie, c'était, c'était les esclavagistes sud-américains. Enfin, sud-américains, non, de l'Amérique
du Sud.
Des États du Sud-américain. Et donc, voilà, elle, elle voit que tout d'un coup, les esclaves deviennent silencieux dès qu'il s'agit de la guerre de sécession. Parce que les nouvelles les intéressent, c'est qu'ils veulent savoir ce qui se passe. Et elle, elle se dit, oula, ça c'est suspect. Donc là, il va y avoir une espèce de double jeu qui va analyser aussi, parce que, évidemment, le discours de légitimation que les dominants tiennent devant les dominés ne tient pas plus la route aux oreilles des dominés. Donc ici, il y a toute une dimension, je crois, et c'est pour ça qu'il va faire encore, je le répète peut-être, faire appel à des catégories littéraires, parce que pour lui, on est d'une certaine manière, on est au théâtre. Qu'est-ce qui fait que les uns et les autres savent que les uns et les autres mentent? Et comment est-ce que ces discours cachés, publics, s'articulent? Alors là-dessus, donc... attends, je regarde un petit peu d'autres choses...
Tu avais l'air d'évoquer là avant la pause que, en fait, du coup, que ça lui permettait aussi d'avoir une approche originale des résistances ou de la compréhension des résistances, que ça jouait justement dans des espèces de chevauchements et d'affrontements entre ces différents degrés de discours. Est-ce que c'était ça l'idée? C'est-à-dire que la manière dont fait, le dominant va chercher en permanence à essayer de contrôler à distance ou de neutraliser en tout cas le texte privé, c'est-à-dire le discours subalterne, en divisant, en atomisant. En en rajoutant une louche dans sur sa propre légitimité, en gardant effectivement une vigilance accrue sur justement les moments de duplicité stratégique là, ou de silence par exemple que tu viens d'évoquer là dans le témoignage. Donc il y a ça. Alors du côté des dominés, comment ça se passe? Comment les dominés peuvent piéger le dominant dans cette comédie là?
Oui, dans cette comédie, bah, justement, ça va être une de ses sources. Il va dire voilà, il faut étudier tout un tas de discours qui peuvent sembler apparemment anodins, et en particulier tout ce qui va être de l'ordre du conte, de la chanson, des petites histoires qu'on se raconte, comment dire, autour du feu, et le genre qui vont souvent mettre en scène une espèce de lapin malin qui est faible, qui n'a aucune force, et qui, parce qu'il est malin, arrive à jouer des tours, par exemple, à un prédateur plus fort, un loup ou autre chose. Et ça va être des comptines, ça va être tout un tas de trucs. Et lui va dire, là, il y a toute une... En quelque sorte, il y a toute une espèce de publication déguisée du texte caché des dominés, qui apparaît comme ça de loin en loin, avec... Et alors après, ça peut être dans un conte biblique, ça peut être dans tout un tas de choses. Donc le jeu de dissimulation et de révélation, il va se faire aussi là-dessus.
Il me semble... Donc ça, c'est la transmission d'une espèce de culture... de dominer, une culture de résistance codée, hein, quelque sorte cryptée, on va dire. Il y a un côté comme ça. En même temps, il me semble me souvenir que tu as des analyses, en fait, aussi, ou des pages dans lesquelles il va insister sur le fait que les dominés, d'autant plus, si tu veux, serviles apparemment, vont aussi être ceux qui seront sans doute le plus impitoyables avec leur maître à partir du moment où. Où leur légitimité ne tient plus d'une certaine manière. Quand, dans une situation de crise, il se peut parfois que les révolutionnaires les plus farouches et ceux qui vont le plus loin, effectivement, dans la remise en question de l'ordre ancien, sont ceux qui avaient pu tenir les discours les plus soumis publiquement auparavant. Bah, c'est-à-dire que t'as des effets de renversement, en fait, violents.
C'est ça, oui. C'est-à-dire qu'ici, malgré tout, il ne faut pas nier... Alors, parce qu'on pourrait se dire, il ne parle que des textes, il ne parle que des discours, mais il ne faut pas oublier ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est le rôle que joue la terreur dans ce genre de choses. C'est-à-dire que, par exemple, un esclave dans les États du Sud de l'Amérique est, pour survivre, obligé d'avoir un discours, un texte public absolument conforme à ce qu'en a le maître. Parce que même si le maître sait qu'il ment, malgré tout, en tenant ce discours stéréotypé, il sauve sa peau. Mais évidemment, plus le discours va être stéréotypé, plus la violence possible sera grande, et plus, en quelque sorte, la colère potentielle du dominé sera grande. Et là, t'as un rapport, c'est-à-dire plus t'es obligé de cacher tes sentiments réels, tes idées réelles, plus tu peux être en colère, et plus aussi ta dignité, ton autonomie et ta vie sont menacées.
Est-ce que t'as
et là-dessus, là, il donne un exemple.
Et du coup, c'est que du calcul.
C'est non, que du calcul. Je pense pas que c'est du calcul, parce qu'à un moment, il dit, c'est pas du calcul, mais en fait, c'est les calculs qu'on fait tous au jour le jour, à différents degrés. C'est pas forcément une espèce de calcul du genre 1 plus 1. Hein. Ça parce va être que... juste. Parce qu'à mon avis, ouais. il parle aussi des situations où ça explose. Parce c'est-à-dire si où, les, où ouais. les personnes peuvent plus calculer, où on les a trop piétinées, et où ça suffit.
Ce que j'avais en tête, si tu veux, c'est une situation. Alors, je sais pas si
parce que attends, là, j'ai une citation qui va peut-être te plaire. Il dit voilà, il dit le caractère jusqu'à présent général et abstrait de notre propos. Peut être précisé à l'aide d'illustrations concrètes de la très grande disparité qui peut exister entre texte public et texte caché. Alors, c'est pas tout à fait ce que tu me disais, la grande disparité, mais il dit voilà, le premier exemple provient du sud des États-Unis avant la guerre de sécession. Une gouvernante blanche de Nouvelle-Angleterre, Mary Livermore, relate la réaction d'Aggie, une cuisinière noire habituellement déférente et réservée, à la correction infligée par le maître de maison à sa fille. Donc la fille de la cuisinière noire se fait bastonner et elle, la cuisinière, réagit devant une blanche. Elle dit « Cette dernière a été accusée de quelques larcins mineurs, apparemment sans fondement, et a été battue sous les yeux de sa mère sans que celle-ci puisse intervenir. » Après que le maître a finalement quitté la cuisine, Aggie se tourne vers Marie, qu'elle considère comme son amie, et s'exclame « Le jour viendra, le jour viendra !» J'entends déjà le grondement des chars, je vois les éclairs des armes, le sang des blancs coule sur le sol comme une rivière et les morts entassés forment des piles hautes comme ça. Ô Seigneur, fais qu'arrive le jour où les coups, les blessures, les douleurs et les souffrances s'abattront sur les blancs, où les busards mangeront leurs carcasses inanimées dans les rues. Ô Seigneur, envoie les chars et rends la paix et la quiétude au peuple noir. Ô Seigneur, donne-moi le plaisir de vivre ce jour et de voir les blancs abattus comme des loups quand ils sortent du bois affamés. Tu vois, là, d'une certaine manière, je pense que ça répond un peu à ce que tu disais. Cette espèce de publication, tout d'un coup, cette irruption du texte caché face à une violence qui devient insupportable.
Oui, mais là, c'est le masque qui tombe.
C'est le masque qui tombe.
Mais je pensais à un autre
après, truc. Lui, il va dire, on peut imaginer, évidemment, j'imaginais ce qui serait arrivé à Aggie, si elle ait prononcé ces mots en présence du maître. Après, là, elle meurt.
Oui, là c'est pas elle prononce ça auprès de qui en fait.
Ben alors là il dit, il ajoute, elle avait apparemment suffisamment confiance en l'amitié et en la compassion de Mary Livermore qui est blanche.
Ouais.
Faut exprimer sa rage devant elle sans prendre trop de risques.
D'accord.
Mais on reste... peut-être il ajoute ou peut-être ne pouvait-elle tout simplement plus réprimer sa colère.
D'accord. Mais là, à la limite, si tu restes dans cette espèce de partage-là, voilà, texte public, texte caché. Ce que j'avais en tête, parce que c'est des analyses qui me semblent avoir vu chez lui, je pensais à un mouvement comme celui des Gilets jaunes, récemment, en France, là, où en fait, tu as vu ressurgir une espèce d'imaginaire, qui est un imaginaire républicain, mais républicain, y compris dans ce qu'il a de plus radical, républicain à la 93, c'est-à-dire avec, tu vois, avec un espèce de droit à l'insurrection, tu vois, ressortir effectivement les projets de texte de la Constitution de 93, même d'une certaine manière, la figure du citoyen, la figure, voilà, du patriote, si tu veux, avec une espèce d'hyper-républicanisme, au moins, tu vois, dans les revendications, c'est quelque chose d'assez fort et d'assez profond, moi j'ai trouvé y compris dans ce moment-là. Alors il y a eu plein d'autres choses aussi là-dedans, mais comme si d'une certaine manière, tu vois, t'avais comme si la légitimité républicaine là, d'une certaine manière, comme t'avais un trop grand décalage, si tu veux, entre ceux qui sont censés l'incarner, donc tu vois, le Macron, Macronie, etc. Comme si du coup c'est comme cette légitimité, elle est plus portée, elle colle plus en fait à ceux qui sont censés normalement, tu vois, légitimer leur pouvoir comme ça. Mais comme si la légitimité, d'une certaine manière, elle est toujours là, le discours est toujours là, le discours de légitimité est toujours là, mais du coup il est retourné contre ceux, effectivement, tu vois, contre le gouvernement, contre Macron, etc. Et de manière ultra radicale et ultra violente. C'est-à-dire que, tu vois, le discours reste le même. C'est-à-dire que le discours républicain, il est toujours là. Sauf qu'en fait, c'est des dominés qui se l'approprient d'une certaine manière, ou des subalternes qui se l'approprient. Et qui se l'approprie de manière d'autant plus violente, tu vois, à l'égard des dominants ou des maîtres, que justement les maîtres ne sont plus dignes, tu vois, d'une certaine manière. Il y a une espèce d'indignité des maîtres face à la légitimité que normalement ils devraient porter, que normalement ils devraient tenir. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est le discours de légitimation qui se retourne en quelque sorte contre ceux qui sont ceux qu'il est censé normalement légitimer. Mais le discours reste le même. C'est pas le discours privé. Tu vois, c'est pas le discours caché en fait qui est mis en avant. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et c'est-à-dire que t'as ces points de bascule là, et les gens qui vont porter ça, ça va, c'est pas des syndicalistes, c'est pas des révolutionnaires, c'est pas tu vois, des marxistes, ou c'est pas, non, c'est pas ça. C'est des gens qui peuvent au contraire être ultra légitimistes dans la vie de tous les jours.
D'accord.
Tu vois, c'est ça que je veux
alors
dire.
Alors lui, il voit pas, lui, et le c'est, chaman.
C'est,
alors
c'est des phénomènes qui sont intéressants, parce que si tu veux, ils échappent en fait, ils échappent au radar de la théorie.
D'accord.
Alors vois, lui, de la non, théorie lui, révolutionnaire ou lui, du conflit social classique.
Alors là, dans les exemples là qu'on a abordés et qu'il aborde au début du livre, c'est pas ce genre de choses qu'il va aborder, parce que c'est des situations où la domination est tellement violente que d'une certaine manière les gens qui en sont les victimes ne peuvent en aucun cas croire une seule seconde à la légitimité du maître. Si ils font semblant de le croire pour sauver leur peau, c'est tout. Et dès que mais
t'es dans le calcul là, pour le coup,
c'est
dans
le calcul, ouais. calcul nécessaire. Et donc là-dessus, tout ce qui peut rompre la chose, ça va être la colère. Ou d'un coup, il craque, parce qu'après il donne un autre exemple justement d'une femme qui est exploitée par une espèce de propriétaire qui l'a contraint, elle et son mari, à la servitude, voire enfin à la mendicité. Et à un moment, elle va lui dire en quelque sorte son fait.
Ok.
Où elle dit, voilà, vous pouvez vous sauver pour ne pas m'entendre, monsieur, parce qu'elle le fait fuir. Et vous pouvez aller ourdir par en dessous les moyens de nous faire du mal, car vous avez le diable pour ami à défaut d'autres. Mais je vous dirai une bonne fois que nous ne sommes pas des bêtes pour être malmenés, exploités par ceux qui ont le fouet à la main. Manque de savoir détacher les lanières. Et si je suis la seule à dire la vérité, il y a bon nombre de personnes qui pensent de même dans cette paroisse et celle d'à côté, car votre nom n'est pas en meilleure odeur à chacun qu'une allumette souffrée sous le nez.
Je te propose, parce que en fait, le choix du titre qui y arrive...
Après, on va parler peut-être... Parce qu'il ne faudrait pas croire qu'il y a une symétrie ou qu'il établit une équivalence entre, en quelque sorte, le niveau de... Les discours des dominés et les discours des dominants.
Ouais.
Alors, c'est pas symétrique.
Avant ça, je te propose d'écouter un morceau qui s'appelle « Say shit to your boss ». Le Radical Kitten.
Ah, vive Radical Kitten.
Bonsoir à tous, vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu ni maître ni publicité, c'est Jeudi Noir qui reprend pour sa dernière partie ce soir. de l'émission consacrée à un livre de James C. Scott qui s'appelle La domination et les arts de la résistance. Ça a été publié aux éditions Amsterdam en 2019. C'est sous-titré Fragments de discours subalternes. C'est un livre d'anthropologie et d'histoire des stratégies de domination des subalternes, des dominés à travers les âges. Et on vient d'écouter donc un morceau de Radical Kitten qui s'appelle Say Shit to Your Boss, morceau de 2020. Et on reprend donc pour cette dernière partie de l'émission. Tu nous dis une des originalités de l'approche de Scott, c'est à la fois de se soucier toujours d'une approche empirique, c'est-à-dire de s'appuyer sur des témoignages, sur des terrains précis avant de passer sur des théories ou avant de faire des généralisations théoriques. Mais parmi les sources sur lesquelles travaille Scott, il y a à la fois des terrains d'anthropologues et des sources littéraires, parce que on trouve en littérature des descriptions qui sont tout à fait susceptibles de clarifier les relations de pouvoir qu'on peut trouver dans la réalité. Et c'est ce qu'il fait, hein, donc en s'appuyant notamment sur des auteurs comme Orwell. Alors tu citais tout à l'heure, peut-être tu peux nous en dire quelques mots, là, du coup, la manière dont tu utilises ce passage-là, un célèbre passage d'Orwell dans lequel il raconte la manière dont policier anglais colonial en Inde, il est un jour appelé à l'aide par la population parce qu'un éléphant, porteur de marchandises est entré en furie et celui qui le cornaquait a perdu le contrôle et du coup il menace de détruire les habitations et d'écraser les gens sur la place du village. Et c'est donc à lui, policier blanc, armé, détenteur d'une arme à feu, que va revenir le privilège d'aller régler le problème en tant que représentant de l'ordre blanc. De l'ordre blanc armé et Orwell raconte ça, hein, pour essayer de décrire justement une situation qui d'après lui est une situation typique de domination coloniale pour le coup. Il se retrouve lui seul au milieu d'un village avec des dizaines et des centaines de personnes et c'est lui, parce qu'il est blanc, parce qu'il est armé, qui doit effectivement régler ce problème et l'affront de l'éléphant à la populace du village.
Donc oui, parce que là on voyait un petit peu le... Comment dire, dit voilà, comme on l'a vu, le faible a des raisons à la fois manifestes et convaincantes de se réfugier derrière un masque lorsqu'il est en présence du pouvoir. Le puissant a également de bonnes raisons de porter un masque en présence des subordonnés. Ainsi, il existe aussi souvent une disparité entre le texte public du puissant déployé au cours de l'exercice affiché de son pouvoir et son texte caché, exprimé uniquement en dehors de la scène. Le texte des élites exprimé en coulisses est ainsi dérivé, tout comme celui des subordonnés. Il consiste en un certain nombre de gestes et de mots qui infléchissent, contredisent, ou bien confirment ce qui transparaît dans ce texte public. Pour lui, cet acte de pouvoir n'a nulle part été aussi bien exprimé que dans la nouvelle de George Orwell intitulée « Comment j'ai tué un éléphant ?» Donc là, que tu viens de décrire. Et globalement, Orwell arrive, il finit par localiser l'animal qui vient de tuer un homme, et tout d'un coup, l'éléphant s'est calmé. L'éléphant est tout calme. Et donc, la logique voudrait qu'on observe l'éléphant, on voit ce qui se passe. Et ce qui va se passer, c'est qu'il y a plus de 2000 sujets coloniaux qui ont suivi Orwell et qui l'observent. Et Orwell écrit « Et brusquement, je sus qu'il me faudrait, malgré tout, tuer cet éléphant. C'était ce que cette foule attendait de moi, et j'allais devoir m'exécuter. Je me sentais invinciblement poussé de l'avant par 2000 volontés extérieures à moi. Et c'est à ce moment, alors que je me trouvais sur cette route, une carabine entre les mains, que je compris l'inanité, la vacuité du règne de l'homme blanc en Orient. J'étais là, l'homme blanc armé de son fusil, face à une multitude d'indigènes désarmés. En apparence, le principal protagoniste de la scène, en fait une ridicule marionnette agitée de ci de là par la volonté des visages jaunes derrière moi. Je compris à cet instant que lorsque l'homme blanc devient un tyran, c'est à sa propre liberté qu'il détruit. Il devient une sorte de mannequin, une carcasse vide qui prend des poses. Il n'est plus que la représentation conventionnelle du Saïb. Car pour pouvoir exercer sa domination, il faut qu'il passe sa vie à tenter d'impressionner les indigènes, ce qui veut dire qu'à chaque moment décisif, il doit se conformer à ce que les indigènes attendent de lui. Il porte un masque, et son visage finit par épousser les contours de ce masque. Un Saïb doit agir en Saïb. Il doit se montrer résolu, savoir ce qu'il veut, adopter en toutes circonstances un comportement sans équivoque. Avoir parcouru tout ce chemin, l'arme à la main, suivi par 2000 personnes, puis m'en retourner benoîtement, sans avoir rien fait, non, c'était impossible. Je serais la risée de la foule. Et ma vie entière, la vie de tout homme blanc en Orient, n'était qu'un long et patient effort pour ne pas être l'objet de risée. » Ah, ici, tout à l'heure, je parlais de la dissymétrie. On voit les risques qui sont encourus d'un côté comme de l'autre. Ici, quel est le plus grand risque couru, finalement, par l'homme blanc ? C'est le ridicule. Alors, c'est pas la mort. Et ici, l'idée, c'est que, justement, comme dit Scott, si l'esclave transgresse le scénario, il risque d'être battu, voire tué. Hein. Alors qu'Orwell ne risque, lui, que le ridicule. D'autre part, il va faire tout un tas d'analyses. Quelle est la différence de jeu ? Ni d'autre part, le jeu nécessaire du dominant dérive non de sa situation de faiblesse, mais des idées soutenant son pouvoir, de ses prétentions à la légitimité. En gros, un monarque de droit divin doit agir comme un dieu, un monarque guerrier comme un général courageux, etc. Donc les actions des élites qui contredisent publiquement le fondement de leurs prétentions au pouvoir sont porteuses de menaces.
Ça renvoie à ce que je te disais c'est-à-dire qu'à partir du moment où le noble déchoit, c'est-à-dire qu'il n'est pas effectivement à la hauteur du rôle qu'il est censé tenir, le retour de bâton, effectivement, là, risque d'être violent. Et il est violent pas pour les... C'est ça, il me semble, qui est intéressant chez Scott, c'est qu'en fait, il est sur un autre niveau d'analyse que la plupart des théories révolutionnaires classiques, si tu veux. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de prendre conscience de sa condition d'aliéné ou de prolétaire ou d'esclave, etc. Et petit à petit, effectivement, de se projeter sur un programme révolutionnaire et ensuite de rentrer sur la scène de l'histoire et d'arriver à vaincre le maître, les armes à la main, en prenant l'appareil d'État, blablabla. Etc. Donc toute cette machinerie là, en fait, qui est en fait pensée comme si la résistance se faisait toujours à découvert, à découvert, et sur un terrain qui est un terrain objectif d'affrontement explicite, de discours justement exclusivement public. Et en fait, l'intérêt, il me semble, du coup, de ces analyses, c'est de montrer que la plupart des résistances et des phénomènes politiques qui sont en jeu, en fait, quand il y a du pouvoir, ils se jouent à un niveau qui est pas visible. Ils sont sous les radars.
C'est ce qu'il appelle l'infrapolitique.
Voilà, l'infrapolitique, ça, je pense que c'est très intéressant comme manière de
Parce
voir les
son
choses.
L'idée, c'est que les dominés sont pas toujours en position, finalement, sont pas toujours un rapport de force suffisamment favorable pour exprimer publiquement des revendications.
Oui, et c'est pas pour autant qu'il se passe rien.
Et c'est pas pour autant
qu'il se passe des tas de choses, et qu'en fait, que quand il va se passer quelque chose de public, c'est pas forcément pour les raisons publiques qui sont avancées à ce moment-là et justifiant effectivement le comportement en question.
Mais ça peut être aussi une lame de fond.
Exactement.
Qui vient du fait que les gens qui se révoltent ont en réalité beaucoup réfléchi à leur situation et sont assez conscients de ce qu'ils font et pourquoi ils le font.
Ou que les dominants se sont plantés.
Aussi.
Ou que les dominants se sont plantés. C'est des situations qui sont aussi intéressantes et qu'il ne faut pas sous-estimer. Oui. C'est-à-dire que quand le dominant n'est plus à la hauteur de son rôle, et en fait, il rentre en terrain miné.
Complètement.
Et, auprès de ceux qui attendent de lui ce rôle.
C'est ça. Ben, c'est un des trucs intéressants que je trouve chez Scott, c'est que parfois dans certaines analyses, disons, foucaldiennes, on a l'impression que le pouvoir ne se trompe jamais. Alors que Scott va être très attentif aux erreurs du pouvoir. Parce que justement, elles ouvrent des brèches.
Les erreurs d'interprétation.
Et par exemple, il dit, voilà, le cynisme affiché des conversations enregistrées dans le bureau ovale de la Maison Blanche lors de la présidence de Richard Nixon a porté un coup dévastateur à la prétention du texte public à la légalité et à la hauteur de vue. De même, l'existence à peine cachée de magasins et d'hôpitaux spéciaux pour les dignitaires du parti dans les pays du bloc soviétique, a profondément sapé la prétention du parti à gouverner au nom de la classe ouvrière.
Alors ça, ce serait peut-être effectivement, c'est des exemples qui sont à la fois intéressants, il faudrait voir, parce que dans le cas effectivement de l'expérience soviétique, tu as une question, c'est-à-dire que le cynisme des dominants... Le cynisme fait partie du mécanisme de domination aussi totalitaire. Ça, il faut voir, parce que c'est-à-dire que personne ne croyait à cela, ni les dominants, ni les dominés. Il n'y avait même pas le faire semblant, je dirais, Donc ça, c'est le moment où, effectivement, le cynisme est tel que, finalement, tu n'as même plus besoin, de jouer ce rôle-là et d'avoir une cohérence dans l'interprétation du rôle pour que ça fonctionne. Hein. Mais c'est peut-être sur ce point-là, c'est qu'effectivement, c'est vraiment une manière, pour le coup, original, je trouve, de penser et la résistance et le refus du pouvoir d'une certaine manière, la lutte contre le pouvoir, de manière effectivement cryptée et infra, comme tu dis, c'est jamais effectivement, ça se passe jamais là où la théorie voudrait que ça se passe, en fait, voilà, c'est ça. Et quand ça se passe là où la théorie voudrait que ça se passe pas pour les raisons que la théorie pense que ça se passe, voilà. Et c'est là où effectivement c'est intéressant, ce qui veut dire que du coup, et je reviens à mon exemple des gilets jaunes. là, c'est qu'effectivement, ce truc-là, à partir de... Enfin, je ne suis pas en train de défendre forcément les Gilets jaunes, mais c'est un mouvement qui est intéressant de ce point de vue-là, parce qu'en fait, il échappe effectivement aux analyses politiques classiques. Voilà, c'est pas un mouvement syndical, c'est pas un mouvement d'extrême-gauche, c'est pas un mouvement révolutionnaire ouvrier, c'est pas un mouvement de classe non plus. Ça correspond à aucune de ces catégories-là. C'est évidemment pas un mouvement, voilà, du peuple français éternel, etc. non plus. C'est une espèce d'hybride qui prend des bouts de discours nationalistes, patriotes, républicains, anarchisants, qui fait une espèce de cocktail de ça. Alors pas forcément au même moment, etc. Mais et ça donne cette espèce, voilà, de remise en question assez radicale de toute forme de légitimité du gouvernement républicain actuel. En tout cas, voilà. Et c'est en ce sens-là, effectivement, qu'on a sur quelque chose qui risque effectivement d'être de l'infra, voilà, qui est sous le radar, qui rentre pas dans la grille,
avec en face un président qui a tendance justement à afficher une espèce de cynisme,
à
rendre public le texte caché habituel et dominant.
Exactement. Et ça marche pas.
Et ça marche pas.
Alors bon, Macron est toujours là, on est payé pour le savoir. Mais donc du coup, ben on va peut-être s'arrêter là. Donc pour aujourd'hui, en tout cas, effectivement, on vous conseille ce texte de James C. Scott là dont on a parlé ce soir. La domination et les arts de la résistance. Fragment du discours subalterne. C'est donc édité aux éditions Amsterdam en 2019. Quant à nous, on se quitte sur Radio Diktat, hein, et oui, l'inévitable Radio Diktat, Stack Abof, un morceau de 2020, et on se retrouve pour la prochaine émission ensemble, à bientôt.
Hello, what's on your mind? Pour faire